Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Douglas Kennedy. Merci
Bonjour.
D'être avec nous aujourd'hui à Toulouse. Vous êtes l'auteur américain de romans largement plébiscités par les lectrices et les lecteurs français, romans parmi lesquels L'homme qui voulait vivre sa vie et la poursuite du bonheur, Les charmes discrets de la vie conjugale, La femme du cinquième, Quitter le monde, ou encore Les hommes ont peur de la lumière, publié l'année dernière. Et vous nous revenez avec ce roman d'anticipation, publié chez Bellefond, comme à votre habitude. Et c'est ainsi que nous vivrons, un roman traduit par Chloé Royer. Roman dans lequel vous nous faites découvrir ce que pourraient bien devenir les États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans votre roman en 2045. Les États-Unis sont divisés en deux blocs. La République unie d'un côté, ce sont les côtes, intellectuelles, progressistes, et la Confédération unie de l'autre côté, les États du centre, des États ultra-religieux. Alors avant de parler du personnage principal de votre roman et de ce qui va se jouer pour elle dans cette Amérique de 2045, j'aimerais que vous nous racontiez comment tout a dégénéré. Votre narratrice explique que les chercheurs en histoire contemporaine désignent toujours 2016 comme le moment où tout a basculé. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Au début, bonjour à tous. C'est très vertigineux ici, c'est extraordinaire, magnifique. Et les lumières, c'est comme un incident que j'ai eu avec la police en Alabama une fois. Jamais être arrêté par la police en Alabama. La vérité, en fait, je vais expliquer au début le moment quand j'ai eu le clic. C'est mon 27e livre et de temps en temps, une idée arrive par hasard. Peut-être, je me souviens très très bien, avec La poursuite du bonheur, j'ai regardé une femme, 75 ans, sur une plage dans le Maine, très mince, très de la Nouvelle-Angleterre, notre héritage puritain. Immédiatement, j'ai l'idée d'une vieille Sarah Smythe, qui était la narratrice principale de ça. Avec celui-ci, c'était quelques semaines après le coup d'État raté du Capitole du 6 janvier. Et j'ai dîné à New York avec un ancien camarade de classe de l'université qui est un golden boy de Wall Street. Un homme, maintenant un ancien golden boy comme moi. Je ne suis pas un golden boy, mais ancien. Et le mec est hyper, hyper riche, en fait. Une valeur de 100 millions, quelque chose comme ça. Et il sait, je ne suis pas quelqu'un de mondain, au contraire. J'ai grandi dans la classe New York, en fait, classe moyenne new-yorkais. Mais le mec est hyper, hyper connecté. Et on a discuté, le coup d'État raté, Trump, et aussi la fin de l'avortement aux États-Unis. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, j'en ai marre. Ce mec, même s'il est riche, socialement, il est progressiste. Et il m'a dit, j'en ai marre des voyous du Sud, et surtout, en fait, de Midwest, avec ses idées, en fait, chrétiennes contre notre société laïque, la misogynie, etc., etc. Et aussi, et c'est très intéressant, j'ai une hypothèse historique. J'ai pensé ça aujourd'hui avec les événements de Fédération russe et le groupe Wagner. Pendant une guerre, pendant tout, il faut suivre l'argent. Toujours. Ça c'est primordial. Et donc, il m'a dit, qui contrôle, en fait, l'économie américaine? C'est les deux côtes. La Californie a la quatrième économie la plus importante du monde. Et on est ici, Douglas, dans ta ville natale, New York, le centre de finance globale. Pourquoi on continue de subventionner des voyous du Sud et du Midwest? Peut-être à l'avenir, si en fait ils continuent de franchement tuer notre société laïque, il y aura un divorce. Ça, c'était le moment que j'ai pensé. Ça, c'est pas mal. Le truc, une question. Pourquoi j'ai choisi 2045?
Date anniversaire.
100 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, exactement, et après Hiroshima. Et aussi, en fait, je suis né en 1955, 10 ans après la guerre, Mon père a survécu la bataille d'Okinawa, du Pacifique. J'ai grandi, ma mère est juive, donc je suis juif. Et j'ai grandi avec des grands-tantes et deux grands-tantes et un grand-oncle. Tante Emilia, et ma fille s'appelle Emilia. Tante Emilia et oncle Joe qui ont fui les nazis en 38, après la nuit des cristals. J'ai grandi avec l'idée que d'être américaine, quelle chance. On est en fait le symbole de la liberté contre le fascisme. On a des défauts, mais quand on a un voyou, un démagogue comme le sénateur McCarthy ou le président Nixon, après une période de temps, ils ont défenestré. Donc, d'être américaine, en fait, vous avez gagné le jackpot. Ça a changé maintenant. C'est un monde très, très différent. J'ai réfléchi récemment. Quelqu'un m'a demandé pendant le COVID, avez-vous une idée pour un roman sous le confinement? Et j'ai répondu, mais c'est trop tôt. On n'en a aucune idée de fait de COVID pour un autre 10 ans. C'était la même chose après le 11 septembre. Mais maintenant, pour moi, c'est mon hypothèse. Qu'est-ce que c'est le résultat de l'an de septembre? C'était Donald Trump. C'était aussi Brexit et Bolsonaro au Brésil et Erdogan et Orban et l'extrême droite partout. Mais aussi un autre aspect, en fait, de l'an de septembre, c'était le début de la surveillance totale. Donc, j'ai amalgamé les deux choses quand j'ai commencé de réfléchir de ce roman.
Et ce que vous nous montrez, c'est à quel point ça peut aller très, très vite, puisque je le disais, les historiens en 2045 datent justement le moment où tout a commencé vraiment à basculer en 2016 avec Trump, et vous montrez l'enchaînement des événements. Et pendant ce temps, l'Europe n'est pas en reste. C'est-à-dire, même si ce sont de courts passages dans votre roman, vous nous expliquez comment l'extrême droite s'est installée au pouvoir en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et dans tous les anciens pays membres du pacte de Varsovie. C'est vraiment ça que vous montrez, à quel point tout peut aller très, très vite.
Oui, et aussi, écoutez, en fait, c'est une hypothèse, OK? Mais en même temps, tout le monde m'a dit que c'est très réel. J'ai toujours un calepin à côté de mon ordinateur quand j'écris et j'ai fait des notes à moi-même. Et j'ai réélu, en fait, le calepin pour, en fait, ce roman après. Et 8-9 fois, j'ai écrit « Reste crédible, Kennedy, reste crédible ». Et pour moi, ça, c'était très important. Ce n'est pas la science-fiction. Il n'y a pas des vaisseaux spatiaux, des zombies, des extraterrestres. C'est très réel et pas loin de notre réalité aujourd'hui. Et une autre chose très importante, il y avait un divorce en 1933, après une période, franchement, où le Parti républicain commence à contrôler tout. Et les deux côtes, comme mon copain a dit, a décidé à dire « hasta la vista, baby » et au revoir. Maintenant, il y a deux pays. La Confédération, qui est une théocratie hyper-chrétienne, hyper-stricte, très misogène, assez libertarienne. Et de l'autre côté, il y a en fait la Nouvelle République. J'ai commencé à réfléchir pendant, en fait, des moments avant avoir commencé l'écriture. Les deux forces aujourd'hui, c'est le fondamentalisme, mais aussi la technologie. C'est intéressant. Suivez l'argent, comme d'hab. Le 19e siècle, c'était des industrialistes qui ont contrôlé tout, la famille Krupp. En Allemagne, avec des familles qui ont construit des chemins de fer partout, ou en fait des gens comme Carnegie aux États-Unis avec l'acier. Aujourd'hui, c'est la technologie. Et maintenant, ça, c'est en fait le pouvoir du moment. Donc, j'ai envisagé que, en fait, après ce divorce ou pendant ce divorce, un homme de la technologie qui est. Tout le monde m'a dit, oh, c'est Elon Musk. Et j'ai répondu oui et non. En fait, c'est un franchement, Musk, c'est Jeff Bezos, ça me paraît horrible. C'est chez Amazon. C'est aussi en fait Bill Gates, Steve Jobs, quelqu'un comme ça, mais un milliardaire de la technologie qui a inventé une puce qui maintenant tout le monde est obligé de porter dans la Nouvelle République, dans la tête. Le marketing au début, ça c'était le nouveau iPhone. Mais c'est la surveillance totale.
Mais c'est ça, c'est que vous montrez à quel point c'est vicieux, puisque ce bloc-là, la République unie, le progrès social, c'est son objectif, c'est ce qui est présenté. La liberté des mœurs, elle est totale, mais il y a une surveillance constante, généralisée, et finalement, c'est un État totalitaire déguisé démocratie.
J'ai un sens de l'humour ironique, et aussi j'ai beaucoup aimé l'idée que ce n'est pas un western, il n'y a pas des bienveillants, des malveillants, des gens avec des chapeaux noirs et blancs. Honnêtement, oui, clairement, le vernis de la Nouvelle République, c'est très progressiste. L'éducation, la culture, la santé, hyper bien subventionnée. Il n'y a pas de racisme, pas de homophobie, mais la vérité, il n'y a pas de liberté aussi. Et quand on crée un roman comme ça, typiquement, c'est essentiel d'avoir un point de contact humain. Avec surtout le narrateur et la narratrice. J'ai pensé depuis quelques années, je voudrais écrire un roman où, en fait, la narratrice est un flic. Et donc,
est-ce qu'il faut en dire un mot, peut-être juste très rapidement, puisque vous l'abordez. Votre narratrice, pardon, c'est Samantha Stengel, qui est née en 2002. Elle a donc une quarantaine d'années. Elle travaille pour les services secrets de la République unie. Elle est très éduquée. Elle aime beaucoup lire, regarder des films, écouter de la musique. Et elle va découvrir un secret de famille. Alors, on ne va pas trop en dire, ne vous inquiétez pas. Un secret de famille lié à une mission qu'on lui confie, qu'on lui ordonne plutôt d'accomplir, puisqu'elle va devoir se rendre en zone neutre, c'est autour de Minneapolis, pour désamorcer un agent redoutable, autrement dit l'assassiner. Et justement, et ça rejoint, je pense, ce que vous étiez en train de dire, je me demandais comment est-ce que vous l'aviez pensé, imaginé, ce personnage de Samantha. C'était d'abord l'idée d'avoir un flic qui était là, présent, et ensuite ce personnage qui s'est développé?
Non, c'est toujours le personnage, pas en fait le carrière, non, toujours. Et toujours, quand je crée un personnage ou des personnages, je fonctionne comme un psy. Je pense tout le temps en fait de ses forces, ses faiblesses, ses peurs, des choses névrotiques. Et tout le monde est névrotique. Des choses pathologiques, et tout le monde a des choses pathologiques. Et aussi, en fait, j'ai réfléchi de beaucoup de mes copines, en fait, surtout plus âgées maintenant, mais à la quarantaine et célibataire. Et si on est un agent de la sécurité, on est presque obligé d'être célibataire si on veut avancer.
Oui, et puis son chef lui a même imposé, il lui a dit clairement.
Oui, mais j'ai inventé un système de rencontres sexuelles qui est très, en fait, aseptisé. Mais si on a besoin, en fait, d'une soirée sexuelle, c'est très facile d'organiser. Mais c'est quelqu'un qui est seul, hyper éduqué, Harvard, hyper cultivé, et elle était l'homme de sa vie, c'était son père, qui est un écrivain de ma génération. Il a récemment disparu, un homme âgé, avec beaucoup de nostalgie pour l'Amérique et surtout New York dans le passé. Et professionnellement, c'est une femme hyper efficace, hyper maligne et franchement froide. Mais en privé,
c'est une femme qui doute beaucoup, mais elle n'a pas le droit de douter. Mais c'est un personnage qui doute beaucoup.
Oui, oui. Et ça, c'est le truc. Elle doute beaucoup. Et heureusement, on ne peut pas lire les pensées des gens, pas encore. J'en suis sûr. Ça va arriver dans 100 ans. Mais elle doute beaucoup. Et aussi, elle découvre que son père, papa, a eu un très, très, très grand secret. Montrez-moi une famille sans des secrets. Et aussi, c'est un secret avec un aspect de son métier. Et je ne vais pas expliquer comment ou pourquoi. Mais c'est une fille à papa en privé, et comme vous avez dit, avec beaucoup, beaucoup de doutes. Et aussi en même temps, en fait, avec beaucoup de questions si, en fait, ce système est juste ou pas. J'ai pensé fréquemment, quand j'ai écrit ce roman de George Orwell, clairement, 1984, mais avec une grande différence. Dans le roman d'Orwell, en fait, Winston Smith, le protagoniste, est une victime du système. Ici, on a quelqu'un complètement impliqué dans le système, qui croit du système.
Qui croit, qui rêve de gravir les échelons. Enfin, elle est vraiment, elle est impliquée dans ce qu'elle fait. Et malgré tout, et je le disais un petit peu tout à l'heure, et c'est pas forcément opposé, mais c'est un personnage qui, comme vous l'êtes, je crois, est une cinéphile érudite. À un moment, elle va, quand elle va devoir accomplir sa mission, se parer d'une fausse identité. Elle va devenir critique de cinéma et ça va lui permettre de revoir des vieux chefs-d'œuvre. Elle est aussi très attachée à la musique et les arts ont une place très importante dans sa vie, dans votre récit. Finalement, c'est comme si c'était les arts qui la reliaient à une certaine forme d'humanité.
Oui, et... Ah, je suis un grand cinéphile. J'adore le fait que Toulouse a une cinémathèque magnifique. Ah, c'est superbe. Je suis un grand amateur de la musique classique et j'ai écouté une dizaine de concerts de l'Orchestre Capitale, un des meilleurs orchestres européens. Ah, je suis en fait très du jazz aussi. Quand j'arrive ce soir à Paris, en fait, un copain a une session, en fait, une séance à minuit. Au Dr. Lambert, je serai là-bas. C'est le jam qui continue jusqu'à 4 heures du matin. Je pense que je vais survivre 2 heures. Mais ça, c'est une petite digression. Le truc pour moi, la culture est un refuge. C'est en fait ma religion. J'ai dit ça une fois pendant une interview. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Johann Sebastian Bach. Ça c'est mon idée, en fait, des choses divines. Et pour Stengel, pour l'agent Stengel, oui, c'est un refuge, c'est un échappatoire. Et aussi, c'est une autre identité quand elle est dans, en fait, la zone neutre. Il faut expliquer que, oui, entre les deux pays, vous pouvez montrer la carte.
Désolé pour ceux qui sont... Oui, pense à partir du quatrième rang, vous ne voyez rien.
C'est mais... assez petit, oui. Qui ma fille a
dessiné. C'est à peu près la carte électorale de 2016.
C'est exactement la carte électorale de 2016. pas 20, parce que George a voté pour Biden. Mais en dehors de ça, c'est 2016. Et au milieu de ça, il y a un petit endroit noir. Et ça, c'est l'ex-Minneapolis. Et j'ai décidé, OK, deux pays, il faut créer un Berlin. Et l'ex-Minneapolis est maintenant la zone neutre. Et c'est contrôlé par les deux pays, avec presque un mur, mais une frontière. Et clairement, c'est une zone d'espionnage. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce roman. En fait, c'est un roman d'anticipation, c'est un roman d'espionnage, c'est une histoire familiale et aussi une histoire d'une femme en pleine crise.
Et je reviens, je reste juste sur la musique un instant pour parler d'écriture, parce que vous disiez que vous écoutiez énormément de musique. Je crois que vous écrivez aussi en musique. La musique est importante dans votre processus d'écriture même ?
La vérité, quand on écrit, on est seul. Et c'est intéressant, pendant le déjeuner pour des écrivains, j'ai parlé avec une écrivaine et on a discuté le fait que mes ex, etc., etc., tout le monde m'a dit, tu es toujours ailleurs. Et ça, c'est un aspect du métier. Aussi. Et quand on écrit, on est seul. Il y a des écrivains qui ont besoin, en fait, d'une cellule comme un moine, une rite sacrée. J'écris partout. J'écris dans le Métro parisien. En fait, j'ai terminé une pièce de théâtre hier entre Montpellier et Toulouse, que j'ai commencé il y a 3 mois. Et le train était 45 minutes en retard. J'étais ravi parce que j'ai terminé la pièce là-bas. Donc, pour moi, c'est très quotidien. J'ai un système de l'écriture que j'ai discuté dans le passé, et c'est le même système que Hemingway et Graham Greene. Et si vous pensez d'écrire un livre ou quelque chose comme ça, ça marche. C'est 2 pages de manuscrit par jour, 2 pages de Word, par exemple. Ça, c'est en anglais 500 mots, peut-être 1500 signes en français. Il n'y a pas de règles. D'ici, Gustave Flaubert, 300 signes par jour. J'ai fait un discours il y a 10 ans à la Bibliothèque nationale de Rouen. Et c'était un moment qui m'a bouleversé, en fait. Le directeur m'a dit, j'ai une surprise, voici un paire de gants. J'ai pensé, ça c'est bizarre, de gants. Mais c'était en face de moi, le premier jet de Madame Bovary. J'ai compris le gant. Mais j'ai vu que Flaubert a réécrit, avec une plume, naturellement, chaque phrase. De l'autre côté, Georges Simenon. 40 pages de manuscrits par jour. Imaginez ça, 40 pages. Il a dit aussi qu'il a couché avec 10 000 femmes, donc c'était une vie hyper chargée. Je connais son fils qui vit à Lausanne, et on a fait franchement des débats au sujet de Simenon. Mais Simenon, en fait, 300 livres. Flaubert 6, Simenon 3, qui est le meilleur écrivain, ça c'est difficile à dire. Donc il n'a pas une méthode. Il y a la mienne et la méthode des autres. C'est simplement une question d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et 2 pages par jour pour moi, ok, mathématiquement, 6 jours, 12. 50 semaines, 600 pages. Le premier jet. Mais le truc est, il faut écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec aussi l'idée, même si après 27 livres, je suis toujours un peu anxieux. Parce que je pense que le doute, c'est un aspect de la frisson créative. Pas de doute et on est arrogant, et trop de doute et on ne peut pas écrire. Mais je n'ai jamais eu, en fait, la peur de la page blanche. Le seul moment où j'ai un blocage, c'est quand j'ai arrêté de fumer, il y a 36 ans. Mais après ça, jamais.
Et par quoi est nourrie l'écriture? Comment est-ce que vous avez documenté cette fiction? Vous évoquiez le Golden Boy, l'ancien Golden Boy avec lequel vous aviez dîné. Je vous ai entendu dire que quand vous prépariez ce livre, vous êtes entretenu avec des policiers aussi pour les interroger, en tout cas pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur métier. Et j'imagine aussi qu'il y a tout ce que le réel donne à observer, puisqu'on le disait, il y a dans ce récit d'anticipation des éléments qui nous font extrêmement penser à aujourd'hui, malheureusement, et je vous entendais dire dans un entretien sur France Culture, je crois que vous lisiez 4 journaux par jour. Vous disiez aussi l'importance pour un écrivain d'avoir les pieds sur le trottoir. Donc, comment est-ce que tout cela, c'est-à-dire à la fois des échanges que vous pouvez avoir avec certains professionnels et juste d'être dans une attention accrue au monde, parce que c'est ça, d'observer les gens et d'être vraiment dans une lecture de l'actualité quotidienne et poussée. C'est tout ça qui nourrit, qui permet d'écrire ces 2 pages par jour?
Oui, beaucoup de choses. Au début, des recherches, oui et non. Trop de recherches, et je pense qu'on va en fait blesser en fait l'aspect romanesque. J'ai inventé beaucoup de choses dans le roman. Clairement, je connais des gens de la finance. Je connais des scientifiques. En fait, ma mère, copine à Paris, c'est comme ma soeur cadette, est virologue chez Institut Pasteur. Son frère dirige un laboratoire à l'école normale supérieure. Donc, c'est passionnant de connaître des scientifiques. Et elle parle une langue complètement en dehors de moi. Je connais des gens de la technologie. Mais j'ai inventé l'idée de la puce. Au sujet de la surveillance, Je connais un des flics, et ça c'est aussi intéressant. Et un des flics m'a dit, honnêtement, si on a un portable maintenant, on est sous surveillance. Il m'a dit, si tu n'es pas au Corée du Nord du glace, je peux te trouver dans le monde en 15 secondes. Et quand on arrête quelqu'un, en fait, on regarde immédiatement le portable parce que tout est là-bas, tout. Donc, des choses comme ça. En dehors de ça, oui, je pense que c'est hyper important pour moi de vivre dans en fait, le monde actuel. Un des problèmes que j'ai eu avec l'autofiction et beaucoup de romans, c'est le sujet, c'est le nombril. Et en fait, le sous-texte, c'est la revanche. Et honnêtement, aussi, j'espère, dans mon écriture, c'est un miroir de comment on vit maintenant. Et c'est ainsi que nous vivons. Oui.
Et on parlait d'écriture, de littérature. Dans le monde que vous créez dans ce roman, on a arrêté de publier des livres papier, les maisons d'édition, à partir de 2035, je crois. On commence à ne publier plus que des livres numériques.
Oui, ça, c'est un de mes peurs. Que ça va disparaître. La vérité est qu'il y a une grande crise de milieu des éditions mondialement. Je vais expliquer pourquoi, ok? C'est très facile. Je vais vous montrer. Tout le monde a un portable, en fait. Je dis la seule personne que je connais sans un portable, c'est Emily Nothomb. Mais tout le monde a un portable. Et la vérité est de plus en plus. On regarde des écrans et pas, en fait, des mots sur papier. Et je pense que ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que aussi, la vérité, métaphoriquement, si on regarde un écran, mais le monde est en face de vous, monsieur, madame. Lèvez les yeux sur son portable et regardez le monde. Chaque jour, quelqu'un me renverse dans la rue, dans le trottoir avec un portable, comme ça, toujours. Dans le métro, sur les escaliers, c'est ridicule. Et on cherche quoi? Et pourquoi, surtout, en fait, on est si obsédé par cet écran? Et la vérité, quand j'ai réfléchi de 2045, 22 ans plus tard, j'ai réfléchi aussi il y a 22 ans, 2001. J'ai une portable, mais c'était primitif pour des appels. Pas connecté par de l'Internet et aussi le Wi-Fi. Quoi? Et je me souviens très, très bien, si j'ai écrit un essai ou un article pour un journal, je l'ai envoyé par le fax. Et maintenant, le fax, c'est comme la presse Gutenberg ou quelque chose comme ça. En fait, c'est du Moyen-Âge. Donc, on vit maintenant au milieu de révolutions technologiques. L'avenir de ça, j'ai évité deux sujets dans ce roman parce que j'ai pensé il y a trop de cauchemars dans le roman. Mais j'ai évité des sujets écologiques, même si je touche de ça, et aussi de l'intelligence artificielle. Parce que j'ai pensé c'est trop. Et il faut rester un peu prudent. Mais clairement, en fait, je n'en ai aucune idée où on sera en 2045, mais j'ai une hypothèse.
Mais vous parliez de cette crainte de voir les livres disparaître. Il y a une crainte sur laquelle on est passé assez rapidement, qui est la crainte de l'essor des fondamentalistes chrétiens, qui était déjà au cœur d'un de vos récits, au pays de Dieu. Donc on le disait, il y a cette confédération unique et une théocratie qui a lu christianisme strict et économie de marché. Donc divorce, avortement, changement de sexe sont interdits. Une théocratie dirigée par 12 apôtres autoproclamé, dans laquelle les hérétiques et autres blasphémateurs sont conduits au bûcher. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour un personnage au tout début du roman. Ça aussi, c'est une des choses qui vous fait la plus peur aujourd'hui, l'essor de ce fondamentalisme.
Oui, d'une certaine manière, aux États-Unis. La vérité est... On a commencé aux États-Unis comme une colonie théocrate. Les puritains qui sont arrivés, en fait, dans la côte de l'Est, le Massachusetts, en 1628, c'était des puritains. J'ai dit une fois à la radio publique aux États-Unis, en fait, ils ont reçu beaucoup de lettres après, ou beaucoup d'emails. J'ai dit la vérité, et les puritains étaient le Taliban du XVIIe siècle. Mais c'est la vérité, en fait. C'était hyper, hyper strict. Et aussi, ils ont brûlé des sorcières, ils ont pendu des gens qui parlaient contre, en fait, le puritanisme, des gens qui étaient peut-être agnostiques, avec des doutes. C'est passionnant, c'est passionnant. Typiquement, dans tous les systèmes totalitaires, ils ciblent immédiatement des artistes, des intellectuels et des écrivains. Pourquoi? Parce qu'ils posent des questions. Et aussi, ils doutent. Et c'est un aspect, franchement, de la condition humaine depuis le début du temps. On a besoin des réponses. On a besoin des réponses. Et d'après mon expérience, il n'y a pas de réponses. Il y a des questions. Mais clairement, comme en fait, vous avez cité, Sophie, j'ai voyagé dans le sud des États-Unis en 88 pour rencontrer des néo-chrétiens. Et peut-être ça, c'était le début de quelque chose que j'ai écrit en fait 34 ans après. Mais j'ai vu qu'une nouvelle vague de fondamentalisme, un mot très vicieux pour un anglophone, fondamentalisme va arriver aux États-Unis. La raison pour laquelle, dans la Constitution américaine, la séparation entre l'Église et l'État était jugée primordiale, et parce que les hommes de la lumière qui ont écrit notre Constitution étaient typiquement très agnostiques, déistes, comme Voltaire, et très influencés par Voltaire et Rousseau, ils ont compris que nos racines comme un pays, c'était les puritains et une théocratie. Et de plus en plus, maintenant, on a un parti républicain qui, franchement, a fait un pacte faustien avec les fondamentalistes, surtout M. Trump. Et c'est extraordinaire. Trump. Le mec a payé pour, j'en suis sûr, une vingtaine des avortements. Mais parce qu'il a nominé des juges du Cour suprême contre l'avortement, il est le prince des fondamentalistes. Le mec était accusé d'un viol. Il avait un procès civil il y a 6 semaines à New York. Il est jugé coupable avec une amende de 5 millions de dollars. Il est à la tête des candidats républicains aujourd'hui. Et 37 charges, il y a 2 semaines, à Miami, pour, franchement, en un mot, l'espionnage. Et le détail, en fait, le plus absurde, le fait que les secrets nucléaires des États-Unis étaient découverts dans sa toilette. Il est à la tête des candidats de la Maison-Blanche du Parti républicain. On vit maintenant de plus en plus dans une réalité alternative.
Vous parliez des artistes. Précisément, quelle place pour les artistes dans une société sous surveillance comme l'est la République unie, dans une société démocratique?
Oui, je pense que, clairement, en fait, c'est intéressant, je ne parle pas beaucoup, en fait, des artistes, parce que je pense que c'est un peu aseptisé. Ce sera très difficile de publier un roman comme ça, même si dans la Nouvelle République, parce que ça critique, en fait, le système. Il y a la culture, mais il y a beaucoup d'autocensure. Et je pense que ça existe dans beaucoup de systèmes, en fait, où il y a un militaire, J'étais au Salon du Livre à Alger en 2014. Ah, c'était une journée très longue. J'ai fait des petites erreurs de temps en temps. 14, OK. J'ai parlé avec des intellectuels algériens et quelqu'un m'a dit, comme ça, en fait, vous savez, on a un pacte faustien avec le militaire parce que l'alternative est plus difficile et plus dure et on peut vivre. Et ça, c'était dans la tête aussi, en fait. J'ai voyagé beaucoup pendant les années 80 en Europe de l'Est, parce que je suis un Américain né au milieu de la guerre froide, voire de l'autre côté. Ça c'était le début de cet instant-là, un de mes romans les plus connus, où l'action se déroule à Berlin pendant la guerre froide. Mais c'était la même chose, hein, avec beaucoup d'intellectuels, etc., etc. Autre censeur ou être emprisonné, ou exilé. La vérité, en fait, c'est un aspect d'une société libre de franchement critiquer cette société. On peut dire beaucoup de choses aux États-Unis, mais ça reste, en fait, une presse libre. Ça est aussi, on est féroce au sujet de chez nous, surtout des écrivains américains, surtout, en fait. On est féroce. J'adore mon pays, mais j'ai peur de mon pays en même temps. Et comme j'ai dit, on est une société schizophrène, et grâce à ça, j'ai beaucoup de matériel. Bonjour. Ça, c'est deux grands copains du Canada qui sont hyper en retard.
J'aimerais qu'on revienne au personnage de Samantha, mais qu'on reste dans l'écriture même du roman. Je vous ai déjà entendu dire que vous n'aviez pas forcément une idée du physique de vos personnages. Alors, en l'occurrence, c'est un moment où vous parliez de votre personnage jeunesse, Aurore, un récit qui est Les Aventures d'Aurore sont accompagnées des dessins de Johan Svar. Mais je me demandais si pour des personnages comme Samantha, dont on sait qu'elle a les cheveux d'un blond douteux, selon ses propres termes, si vous visualisiez vos personnages quand vous écriviez ou si pas du tout?
Pas du tout. Et ça, c'est bizarre. Je n'en ai aucune idée visualisée. En fait, si quelqu'un est un mastodonte, ça, c'est autre chose. Mais typiquement, non. Et pour moi, ça, c'est le travail de l'acteur et l'actrice. Vous décidez. Mais aussi, de temps en temps, je pense qu'un roman, c'est comme un test de Rorschach. Vous vous souvenez des tests de Rorschach avec d'encre, et on ouvre ça et ah oui, je vois le lapin du parc ou quelque chose comme ça en conversation avec Jésus. Non, désolé. Oui. Et puis le psy a dit, je vais appeler vos parents. Mais pour moi, on se pose ce qu'on veut s'imposer sur un roman. Et psychologiquement, je connais Samantha très très bien. Et quand je construis un personnage, ça c'est très important aussi, je pense toujours des forces, des faiblesses, franchement des peurs, des choses névrotiques et aussi en fait pathologiques, comme j'ai dit. Mais le visage, jamais.
Le père de Samantha a commencé à tenir des journaux intimes. Vous parliez des deux pages d'écriture par jour. Vous avez certains points communs avec le père de Samantha. Vous évoquiez l'âge tout à l'heure, notamment le fait qu'il soit romancier. Est-ce que c'est aussi une de vos pratiques, le journal intime?
Absolument pas. J'ai essayé de faire un journal intime et en fait, j'ai trouvé pathétique, honnêtement. De temps en temps, j'écris une phrase. J'ai toujours un calepin avec moi et un stylo, préférable un stylo de plume. Et quand je fais une rencontre publique, j'ai toujours un stylo en main, c'est mon équilibre en public. Mais encore, il n'y a pas de règles. Il y a des écrivains avec des journaux intimes extraordinaires. Moi, en fait, c'est toujours 2 pages par jour. Et je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai écrit en fait 27 livres, c'est parce que je n'ai jamais fait un journal intime. Peut-être. C'est difficile à dire. Honnêtement, en fait, j'adore lire des journaux intimes. Ce sera intéressant à l'avenir parce que aussi des lettres, ça disparaît beaucoup maintenant. Peut-être à l'avenir, il y aura des emails de Douglas Kennedy, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Mais qui écrit une lettre maintenant?
Levez la main.
Trois. Et justement, vous disiez, j'ai peut-être écrit tous ces livres justement parce que je tenais pas de journal intime. Est-ce que vous diriez que vous avez écrit ce roman en particulier quelque part pour conjurer le cauchemar, le mettre à distance, se dire, ben voilà, ce qui pourrait arriver de terrible, c'est consigné dans un livre, ou pour nous dire aussi peut-être à toutes et à tous, faites attention, qu'est-ce que peut la littérature ?
La vérité, on ne va pas citer Woody Allen maintenant, mais oui, mais dans certains films de Woody Allen, il y a toujours un écrivain qui est, pour moi, un clown. Ah oui, mon prochain roman, en fait, c'est l'histoire de l'éclat de la civilisation américaine, en fait, la mondialisation du monde, etc. Je n'ai jamais une idée du thème quand je commence ce roman. Et il y a des écrivains comme des architectes avec un plan. Jean-Christophe Ruffin, par exemple, il a planifié tout en avance. Ça, c'est comme en fait Flaubert Simenon. Oui, ça, c'est une méthode, mais pas la mienne. Quand je commence, et c'est intéressant, j'ai une idée de dilemme, parce que chaque roman a un dilemme central. Montrez-moi une histoire sans un dilemme. C'est impossible quand ma fille Amelia avait 4 ans, une petite éducation, mais c'est utile. Elle me dit une fois, une soirée, papa, dis-moi l'histoire de grand méchant loup et de toi petit cochon, mais sans le grand méchant loup. Et j'ai dit, mais chérie, c'est impossible. Pourquoi? Où est le problème? Chaque, en fait, histoire a un problème. Imaginez si Hamlet a beaucoup aimé son beau-père. On n'a pas une histoire. Donc, on a, en fait, le problème central, le décor, le narrateur ou narratrice, et le début, en fait, du trajet du roman, et le reste arrive. Et après 27 livres, je n'en ai aucune idée comment le processus marche. Une autre chose, en dehors de 2 pages par jour, quelque chose que je trouve très utile, j'essaie la soirée avant d'avoir dormi, si c'est possible, ou si ce sera une nuit du jazz ou quelque chose d'autre. En fait, au milieu en fait, de la soirée, je lis tout ce que j'ai écrit la journée. C'est 20 minutes parce que c'est 2 pages. Et j'en suis sûr que pendant la nuit, le cerveau travaille. Quand je commence un roman, je suis hyper obsessionnel. Hyper obsessionnel parce que on est dans le tunnel. Et franchement, aussi, il faut lutter tout le temps avec des doutes. Ma fille, Amelia, qui a 27 ans maintenant, elle a eu sa première pièce de théâtre à New York récemment, qu'elle a écrit. Mais elle a terminé le premier jet de son premier roman. Et quand elle était jusqu'à la fin, elle m'a appelé. C'était 3 heures du matin à Paris, mais je suis un homme des nuits. Et ma fille comprend ça. Et elle m'a dit, papa, en fait, ce roman, c'est pas terrible. Franchement, c'est de la merde. Je pense que je vais arrêter et je lui ai dit, je vais dire quelque chose de très dur, même si j'ai un amour inconditionnel. Mais si tu arrêtes maintenant, je vais regretter ça, tu vas regretter ça, et pour le reste du monde, le reste du monde, et allons. Et ça, c'est aussi une vérité que je pense tout le temps. Il faut écrire pour soi-même au début. Clairement, le premier jet, pour moi, je vomis. La pièce que j'ai terminée hier, c'est 153 pages. Ça, c'est 50 pages trop longues pour une pièce. Mais dans un mois, je vais regarder le manuscrit avec un crayon rouge et je commence de réécrire. La même chose ici, en fait, 5G de roman. Et ça, c'est normal pour moi, 5G. Donc, le premier G, je découvre le roman et puis je refais les choses.
Un dernier mot, puisque je sais que vous êtes attendu à Paris et je veux que vous ayez le temps de rencontrer Douglas Kennedy en dédicace après cette rencontre. Mais juste un mot rapide, votre livre est publié en France avant le reste du monde. Un mot rapide peut-être de ce qui vous lie particulièrement à ce pays.
J'espère que, en fait, ce sera intéressant quand c'est publié en 24 aux États-Unis. En fait, ce sera très intéressant. Comme beaucoup, beaucoup d'écrivaines américaines, j'ai un public plus grand ici que les États-Unis. Et la vérité, il n'y a pas, des librairies indépendantes subventionnées. Il y a beaucoup de librairies indépendantes, mais pas subventionnées par la municipalité. Le système de salon de livres ici, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc la France reste peut-être en fait le pays le plus important pour la littérature. Et tous les écrivains pensent la même chose. Donc vive la France. mais aussi, comme j'ai dit, quand je vois quelqu'un maintenant dans le métro, et je prends le métro comme tout le monde à Paris, quand je vois quelqu'un avec un exemplaire, même si un journal, je voudrais l'embrasser, parce que c'est rare. Et comment on crée, en fait, l'habitude d'écrire, ça, c'est une grande question. Parce que quand on lit, on voyage. Quand on lit, on réfléchit. Quand on lit, on comprend que, franchement, il n'y a pas, en fait, des réponses et un point de vue manichéenne. Et franchement, un point de vue très dangereux. Quand on lit, on pose des questions. Donc, merci beaucoup.
Merci infiniment, Douglas Kennedy. Merci à vous toutes et tous. Et je vous propose donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, de poursuivre les échanges de manière informelle de l'autre côté des gradins en dédicace. Merci encore.